Merci Gilles. Oui, alors merci de l'invitation. Je vais rester debout là parce que j'ai déjà pas une grosse voix. En plus, j'ai une crève carabinée, donc je pense qu'on m'entendra mieux si je reste comme ça. Donc merci et bravo à vous d'être venu dans un contexte fiscal un peu particulier, hein, pour faire les bonnets rouges, les manifs qu'il peut y avoir où on parle de raquette fiscale. Enfin, je dis merci d'être venu, si vous êtes sûr d'être venu pour apprendre à dénoncer la fraude fiscale et pas pour apprendre à frauder, bien sûr, mais que je ne donnerai pas de conseils en la matière. Mais non, c'est un sujet important, central pour la vie en société qu'on va essayer d'aborder de la manière la plus simple possible, avec quand même quelques chiffres et quelques éléments techniques, mais je ne sais pas trop rentrer dans les détails. Et puis pour voir ensuite ce qu'on peut faire en tant qu'attaque, ce que le mouvement social, syndical peut faire en la matière, et ce qu'éventuellement les hommes politiques, s'ils le voulaient, pourraient faire. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de partir de ce que représente l'impôt dans la vie en société, voir pourquoi certains ont toujours évité l'impôt et voir comment ça s'est développé, voir un peu quelle est la situation aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières années, entre les Liechtenstein, Bettencourt, Cahuzac, etc., de lutte contre la fraude fiscale, essayer de décortiquer ce qui s'est passé, voir le vrai du faux, quels sont les obstacles réels qui existent dans le contexte international de concurrence fiscale et sociale, et quelles sont les avancées, il y en a eu quand même quelques-unes, et puis ce qui reste à faire. Aujourd'hui, le constat qu'on fait schématiquement, c'est que la fraude a malheureusement toujours un temps d'avance, et quand je dis un temps, c'est plutôt 2-3 temps d'avance sur le combat contre la fraude fiscale. Donc évidemment, on va conclure par les propositions un peu techniques qu'on peut faire, et puis en termes de sensibilisation, parce que ça sera le point de départ. Aujourd'hui, le contexte, il incite à énormément d'inquiétude, à la mesure où vous avez vu, en quelques temps, il y a eu un retournement. Autant pendant des années, on avait plutôt une opinion qui était sensible à la cause de la justice fiscale, dans le sens où un certain nombre de mesures qui ont bénéficié aux plus aisés, je pense au bouclier fiscal, hein, c'est une mesure emblématique, mais il n'y a pas eu que cette mesure-là, ont été largement dénoncées par l'opinion. Il suffit de regarder, moi j'ai regardé sur une dizaine d'années les sondages, ils valent ce qu'ils valent, mais en tout cas ils montrent quand même une tendance, et qu'il y avait quand même une aspiration à une meilleure justice fiscale. Et puis depuis, on le situe à 2 ans, hein, on reviendra pourquoi, on pourra étudier pourquoi, il y a un retournement de l'opinion, il y a ce qu'on appelle un ras-le-bol fiscal, alors il faut être très prudent avec le terme. Il y a à la fois un ras-le-bol de la justice fiscale, il y a un ras-le-bol de devoir payer une crise dont on ne se sent pas responsable, il y a un ras-le-bol de la complexité fiscale, et puis ben, pour certains qui reçoivent leur facture, in fine, on se dit mince, je paye trop par rapport à ce que je devrais au regard de mes facultés contributives. Donc c'est ça le paysage aujourd'hui. Évidemment, ce contexte, il est largement instrumentalisé par les libéraux, les conservateurs. Je préfère dire les conservateurs parce qu'au fond, ce sont toujours les forces conservatrices qui sont aujourd'hui à l'œuvre dès lors qu'il s'agit de dénoncer les droits sociaux, dès lors qu'il s'agit de dénoncer la progressivité de l'impôt, par exemple, la place de l'État, la sécurité sociale, etc. On retrouve à chaque fois les mêmes arguments qu'au XIXe siècle, lorsque Thiers combattait, par exemple, l'impôt sur le revenu progressif qui était en débat au Parlement. Donc bref, aujourd'hui, on a un contexte très particulier, très pesant. On le voit, là, pour le coup... Il n'y a pas besoin d'instrumentalisation de ce ras-le-bol fiscal, entre guillemets, et encore, je mets vraiment beaucoup de guillemets, pour s'apercevoir qu'il y a une forme d'incompréhension, de déception aussi, parce que François Hollande avait porté des propositions en matière fiscale et ce qu'il a mis en œuvre n'était pas à la hauteur des attentes. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une espèce de méli-mélo, quelque chose de très complexe autour de la question de la fiscalité. Pour autant, il faut quand même s'attarder sur ce premier point. La fiscalité, c'est un enjeu central dans la vie en société. La coutume de dire à Attac, à Copernic, dans les milieux syndicaux, qu'il n'y a pas de société sans impôt, il n'y a pas de société juste sans impôt juste. Tout simplement parce que s'il n'y a pas d'impôt, il ne peut pas y avoir de prise en charge de besoins sociaux, il ne peut pas y avoir de services publics, il ne peut pas y avoir de solidarité. Donc tout simplement, la vie en société n'est pas possible, c'est simplement une juxtaposition d'individus, ce qui est absolument inconcevable. Quand on regarde dans les fondamentaux de l'impôt, de ce que devrait être l'impôt, on doit avoir normalement, en théorie, un système qui tient compte des facultés contributives de chacun, ce qui veut donc dire que normalement je dois payer plus que celui qui gagne moins et moins que celui qui gagne plus, hein, en quelque sorte. Et évidemment, malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais si on poursuit sur la théorie, l'impôt est quand même nécessaire, dans la mesure où chacun met au pot commun pour que tous bénéficient de ce que l'impôt finance, pour que le service public. Et puis par extension, si on dit impôt, prélèvements sociaux, ben on est sur la sécurité sociale. Et c'est, à mon avis, un point clé du débat, y compris on le trouvera ça au stade des propositions, si on veut réhabiliter le consentement à l'impôt, qui est quand même en voie d'affaiblissement, eh bien, il faut absolument repartir de là, dire à quoi sert l'impôt, montrer que de manière générale, chaque individu que nous sommes aujourd'hui a intérêt à payer des impôts, tout simplement parce que s'il n'y avait pas d'impôts, on aurait une société totalement privatisée qui serait plus injuste et à la fois plus chère dans les prestations, si j'ose dire, qu'elle propose. Il y a un exemple qu'on prend à chaque fois qui est célèbre, c'est celui de l'éducation nationale. Imaginons une éducation nationale privatisée. Eh bien, ça veut dire qu'au lieu que l'éducation nationale soit financée par toute la collectivité, les jeunes, les vieux, les particuliers, les entreprises, etc., eh bien, simplement les utilisateurs de l'éducation nationale seraient amenés à le payer, donc typiquement les parents qui ont des enfants en scolarité. Et généralement, quand on a des enfants, on n'est pas au maximum de son revenu, de son patrimoine. Et ça voudrait dire que, par exemple, pour envoyer un enfant à l'école maternelle, à l'école primaire, il faudrait débourser 5 000 euros, au collège 8 000 euros, au lycée 10 000 euros, et pour les études supérieures, davantage. Ça veut donc dire qu'on pourrait tout simplement, enfin, il y aurait 90% de la population qui ne pourrait pas payer des études à ses enfants. Poursuivant le raisonnement, ça veut donc dire que la société dans son ensemble aurait une main-d'œuvre moins bien formée, donc beaucoup plus inégalitaire, ce qui socialement et économiquement serait absurde et contre-productif. On pourrait décliner comme ça toutes les missions publiques financées par l'impôt. Et encore une fois, quand je dis par l'impôt, par extension, on mettra aussi la sécurité sociale dans le paquet. Parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, il s'agit simplement de savoir si chacun paye pour lui-même ou pour la société. Dans les deux cas, il y a bien un prélèvement sur les revenus et sur la richesse qui finance de manière plus ou moins juste, plus ou moins coûteuse, un système, un service public, une prise en charge des besoins sociaux dans le cadre de la protection sociale. Un autre exemple, vous le connaissez sans doute, c'est le système de santé américain. Comme ça, je fais un petit détour par la protection sociale. On sait qu'il est à la fois plus coûteux, plus injuste que le système français, qui n'est sans doute pas parfait, hein, mais enfin, en tout cas, il est nettement plus performant, malgré le grignotage dont il fait l'objet par les complémentaires santé et retraite de toutes sortes. Enfin, le système américain, qui exclut près de plus de 40 millions d'Américains, on l'a vu avec le débat sur ce qu'a lancé Obama, le système américain coûte 17% de la richesse nationale américaine, le système français 11%. Simplement, quand on regarde dans le détail, les impôts et les prélèvements sociaux aux États-Unis sont bien moins élevés parce que sur les 17%, eh bien, plus de la moitié est financée par des cotisations privées de type assurantielle qui ne sont pas comptabilisées dans les prélèvements obligatoires. Ce qui veut donc dire qu'en apparence, les prélèvements obligatoires aux États-Unis sont moins élevés qu'en France. Simplement, ils ne financent pas toute la couverture sociale que la France finance. Et donc, quand on regarde, je ne vais pas approfondir davantage, mais quand on regarde un peu dans le détail tout ce que les conservateurs nous avancent sur les comparaisons des taux de prélèvement obligatoire en disant « là, on est assommé d'impôts en France », ça ne veut juste rien dire. Parce qu'il faudrait comparer ce qui est financé par les prélèvements obligatoires et on verrait qu'en France, on finance ça, aux États-Unis ça, et que pour financer l'équivalent, eh bien, il faut des prestations, des cotisations privées qui sont donc bel et bien payées par les ménages, mais simplement ce sont ceux qui peuvent se le payer qui se le payent. Et donc ça donne une société plus inégalitaire. Je le dis schématiquement, on a fait à Attac il y a 2 ans un petit bouquin, 15 idées reçues sur la fiscalité, qui décortique un certain nombre d'idées reçues de ce type-là, qui montre qu'en réalité, quand vous regardez la télé, pour ceux qui ont le malheur de. On est asséné par ce genre de contre-vérité. Les prélèvements obligatoires trop élevés, encore hier à mots croisés, je ne sais plus trop qui du MEDEF disait ça, c'est juste une absurdité, parce que là encore, on ne prend pas la réalité de ce que ça finance. Et tout ça pour conclure sur l'idée que c'est l'OCDE qui le dit, et croyez-moi, ce n'est pas un repère de gauchiste, qui dit que pour financer ce qu'en France on finance en termes de services publics et de protection sociale, eh bien dans tous les pays, il faut à peu près prélever et redistribuer la moitié de la richesse nationale. Certains pays le font par les prélèvements obligatoires, c'est le cas de la France, d'autres le font par des systèmes d'assurance privée ou des complémentaires de particulières avec des accords de branche comme en Allemagne. Mais au final, il y a bien un prélèvement sur la richesse nationale à peu près équivalent pour une prestation à peu près équivalente, mais pas répartie de la même manière, puisque, encore une fois, dans certains systèmes libéraux notamment, c'est ceux qui le peuvent qui se le financent. Pour autant, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir du moment où il y a un système obligatoire, certains agents économiques essaient d'éviter le prélèvement obligatoire tout en bénéficiant du système. C'est là qu'on rentre dans l'évitement de l'impôt, autrement dit dans la fraude. Et donc, on attaque le cœur du sujet. De tout temps, je pense qu'on peut dire qu'à partir du moment où le premier impôt a été inventé, il y a eu le premier fraudeur. C'est l'idée, enfin, le gendarme et le voleur, ça a toujours existé. Donc, ça veut dire que, là encore typiquement, il y a toujours eu des personnes qui ont essayé de bénéficier du système en cotisant, quand je dis en cotisant, ça fait appel aux cotisations sociales, mais en payant le moins possible. Donc, c'est là qu'on attaque le champ de la fraude fiscale proprement dite, parce qu'on le verra. Le champ de la fraude fiscale est éminemment complexe, très divers et varié. Mais il y a un point commun, c'est qu'on évite un impôt, la plupart du temps, en bénéficiant du système que l'impôt finance. Ça veut donc dire que ce qui n'est pas payé pour l'un, par l'un étant payé par l'autre, le contribuable honnête, de fait, paye pour les fraudeurs. En ce sens, on peut dire que la fraude, c'est du vol, même si ensuite il s'agit de décortiquer les différentes formes de fraude, les différentes formes de gravité de la fraude, parce que là non plus, il ne faut pas tenir un discours radicalement sécuritaire sur la fraude. Il faut rentrer dans le détail pour en comprendre les rouages et mieux la combattre. Alors je vais m'arrêter dans un premier temps sur le paysage de la fraude, et puis ensuite on verra en termes de propositions ce qu'on peut faire. Tout d'abord, sur le paysage de la fraude, j'ai commencé par les définitions. Parce que vous entendez beaucoup parler de fraude, d'évasion, d'optimisation, paradis fiscaux, etc. Alors, juste savoir de quoi on parle, disons schématiquement que la fraude et l'évasion sont illégales, que l'optimisation est légale. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est morale ou légitime. La fraude, il y a un débat sur la notion de fraude fiscale. Pour certains, on va dire, alors les libéraux, les conservateurs, la fraude, c'est vraiment ce qui est... un comportement, on va dire, outrancier. C'est vraiment celui qui sciemment fraude avec force au montage à l'international. Alors que quand on regarde dans la définition juridique de la fraude, en réalité, c'est la réunion de trois éléments, l'intention, l'élément moral, l'élément matériel et l'élément, j'en oublie un troisième, mais ça veut dire qu'à partir du moment où l'État est lésé, sur la partie fiscale, il y a bien fraude, c'est-à-dire qu'il y ait intention ou pas. En ce sens, la fraude rejoint l'évasion, qui n'a pas de définition juridique précise. Enfin, à l'oreille, l'évasion, ce n'est pas tellement légal. Voilà, celui qui s'évade d'une prison, en général, on ne l'a pas permis. Donc, l'évasion fiscale fait partie de l'évitement illégal de l'impôt. Donc, quand vous entendez fraude ou évasion fiscale, eh bien, retenez que c'est simplement ce qui n'a pas été payé, alors que ça aurait dû l'être. Encore une fois, il y a une graduation dans la gravité des formes d'évasion et de fraude fiscale. À l'autre bout de la chaîne, on a l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est l'utilisation de régimes fiscaux dérogatoires, par exemple les niches fiscales, on pourra en parler, l'utilisation, alors souvent très savante, il y a une vraie ingénierie financière et fiscale, de la part d'agents économiques, souvent qui ont les moyens de s'y livrer, voilà, tout simplement, pour utiliser les niches fiscales pour ouvrir des comptes à l'étranger ou pour ouvrir des sociétés à l'étranger, mais il faut simplement en avoir les moyens. Et donc l'optimisation, c'est l'utilisation donc, de ces moyens légaux pour diminuer légalement l'impôt. Évidemment, quand je dis ça, on peut vite s'apercevoir que la limite n'est pas facile à trouver. Parce qu'on en discutera tout à l'heure, mais vous pouvez... On a des collègues vérificateurs qui se trouvent en face de schémas de sociétés qui apparemment sont tout à fait légaux. Puis dès qu'ils regardent dans le détail, ils s'aperçoivent que les sociétés qui ont été montées ici ou là n'ont aucune activité économique et qu'en réalité, c'est bien un schéma de fraude. Enfin, on va rester en théorie. En théorie, fraude, évasion illégale, optimisation légale. Et puis, il y a une zone grise où on va parler d'expatriation, d'exil fiscal, etc. Alors, Depardieu, on en oublie, quoi. Il y en a pas mal. Et là aussi, il faut s'arrêter sur les termes pour comprendre de quoi on parle. Vous avez l'expatriation et l'exil fiscal. C'est simplement quelqu'un qui va habiter ailleurs. Donc, qui va déplacer son foyer fiscal, qui n'est plus résident fiscal en France, qui va être résident fiscal à l'étranger. Donc, voilà, je suis à Paris, je paye mes impôts en France. Je vais à Bruxelles, je paye mes impôts en Belgique. À condition toutefois que je loge vraiment en Belgique, que j'ai vraiment le centre de mes intérêts économiques et familiaux en Belgique, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et évidemment, là aussi, il y a une forme de fraude, ça passe déclaré à l'étranger alors qu'il continue à habiter en France. Ce qui fait qu'on retrouve le schéma que je vous disais tout à l'heure, je paye moins d'impôts en France, illégalement, et je continue à bénéficier de l'environnement français. Donc voilà pour la partie, entre guillemets, définition, on pourrait creuser sur la question des paradis fiscaux, qui n'ont pas de définition propre en tant que telle, même si maintenant tous ceux qui regardent un peu la question s'accordent à dire qu'il y a une réunion de la combinaison de plusieurs critères qui montrent qu'on peut qualifier un territoire de paradis fiscal à partir du moment où il n'y a pas de coopération juridique, pas de coopération fiscale, une déréglementation et des taux d'imposition très bas, notamment pour les non-résidents. Rien que sur ces quatre critères, on peut qualifier un État de paradis fiscal. Donc voilà pour le paysage. Bon, déjà... Ça peut se permettre de se situer dans le débat public lorsqu'on entend tel ou tel terme. Puis maintenant, ce qu'il faut, c'est voir où on en est au niveau de la fraude fiscale aujourd'hui. Alors déjà, un chiffre, plutôt un nombre. Nous, on évalue, on l'a évalué dans ce petit rapport ici, que mon camarade Erwan qui arrive vous met à disposition. On l'a sorti l'année dernière, on a fait une estimation de la fraude fiscale, c'est-à-dire les impôts qui ne rentrent pas. Par an, ça représente entre 60 et 80 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près l'équivalent du déficit budgétaire annuel français. Il faut y rajouter la fraude aux cotisations sociales qui ne rentrent pas, notamment le travail non déclaré, aux alentours de 15 à 20 milliards d'euros. Si on fait plus, plus égal, ça fait 75 à 100 milliards d'euros qui ne rentrent pas pour l'ensemble des recettes publiques. On a fait cette estimation, je vous dirai ensuite ce qu'on y retrouve dedans comme composante. On a fait cette estimation en ne tenant pas compte d'une évaluation qui existe au niveau de l'Union européenne et qui dit que, pour l'Union européenne, l'ensemble des recettes publiques, fiscales et sociales, donne lieu à une fraude au niveau de l'Union européenne, des 27 États, avant que ce soit 28, qui est équivalent à 1 000 milliards d'euros sur l'Union européenne. Ce qui est absolument démentiel et colossal. Si on fait un bête rapprochement avec ce que le Programme national des Nations Unies pour la fin du développement évalue comme besoin pour que chacun peut se nourrir boire et manger, c'est-à-dire entre 50, un peu plus de 50 à 60 milliards de dollars, quelque chose de colossal. Et si on fait une clé de répartition par rapport à ce que représente la France dans l'Union européenne, on arrive à 100 milliards d'euros environ. Donc vous voyez que l'estimation colle. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette estimation ? Je décortique un petit peu le schéma, parce qu'il y a plusieurs types de fraudes. Il y a, on va partir de la plus connue, la fraude aux paradis fiscaux. C'est-à-dire tous les actifs que les particuliers et les sociétés logent dans les paradis fiscaux, qui donc ne sont pas déclarés ni en tant que patrimoine, ni en tant que revenu en France. Gabriel Zucman, qui est un économiste particulièrement éclairé sur le sujet, estime que le manque à gagner pour les recettes publiques, c'est... aux environs de 17 milliards d'euros. Il faut y ajouter l'ensemble de la fraude fiscale internationale qui ne transite pas par des paradis fiscaux. On est à peu près autant, aux environs de 15 à 18 milliards d'euros. Ce qui veut donc dire que la fraude fiscale internationale représente 30 à 36 milliards d'euros. Le manque à gagner pour la France. Absolument colossal, on est à peu près sur la moitié de la fraude fiscale. Ensuite, on a une fraude fiscale plus classique. Fraude fiscale qui, par exemple, vient de sommes qui n'ont pas été déclarées par des salariés, par des commerçants au niveau de la TVA, qui provient de charges excessives, déduites du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, par exemple. Ces différentes formes de fraude représentent aux alentours de 20 milliards d'euros. Puis s'ajoute la fraude à la TVA et la fraude au travail non déclaré, et on arrive à 60 à 80 milliards d'euros. Alors ensuite, je vous passe les détails, il faut parfois recouper les fraudes, les différentes formes de fraude, mais on arrive à cette fourchette de 60 à 80 milliards d'euros. Pour la petite histoire, quand on a sorti ce chiffre l'année dernière, Cazeneuve, notre ministre de tutelle, a été bien emmerdé, parce qu'il n'avait pas d'estimation de la part des pouvoirs publics, et donc il leur a demandé des notes sur le sujet. Donc pendant un premier temps, il a dit aux journalistes qu'il interviewait, oh, non, c'est n'importe quoi, 60 à 80 milliards d'euros. Puis quelques semaines après, il leur prenait en disant, il y a des estimations d'ordre syndical qui disent 60 à 80 milliards d'euros. Parce que les notes qui sont venues d'interne, comme elles se basaient sur, pas simplement nos chiffres, mais les mêmes données que nous on exploitait, évidemment, elles ne pouvaient pas donner un autre résultat. Voilà. Et par ailleurs, sachez que pour estimer la fraude, non seulement on fait cette estimation par grands agrégats, mais on fait une extrapolation des résultats du contrôle fiscal, je vous passe les détails, on regarde les redressements les plus courants, les redressements les plus coûteux, les formes de fraude qui évoluent, et on essaie de croiser aussi ces données pour consolider notre estimation. Bref, retenez que tout ça, c'est 60 à 80 milliards d'euros de manque à gagner pour les caisses de l'État. Dans un contexte où les finances publiques sont en crise, c'est quand même notable de voir ce que l'État perd tous les ans. Comment la fraude a évolué ? On est obligé de reconnaître qu'il y a eu une hausse de la fraude fiscale en volume, en complexité, en diversification aussi, parce que par rapport à, sur les 20 ans en arrière, où les nouvelles technologies n'étaient pas aussi développées, où la déréglementation n'était pas aussi prononcée, où les formes de fraude étaient un peu plus traditionnelles sur l'argent liquide, eh bien, on s'aperçoit que la fraude a évolué dans le sens où la fraude traditionnelle est restée bien présente, la fraude en liquide existe bel et bien. Il y a eu plusieurs affaires, il y a le journaliste Mathieu Delahousse qui a sorti un petit bouquin cache-cache qui montre que la fraude en liquide est toujours présente, et nos camarades douaniers d'un syndicat, la Solidaire Douane, qui nous alimente régulièrement, qui dit que oui, les transits en liquide non déclarés, y compris les valises en Suisse, jusqu'à il y a un peu de temps, ça existait encore. Mais se sont ajoutées des formes de fraude plus diverses et complexes, qui touchent par exemple à la fraude à la TVA intracommunautaire. Hein, on a au sein de l'Union européenne un régime qui est totalement bancal et fraudogène. La fraude se développe à la fois sur des petites et des grandes sociétés, ce qui rend d'ailleurs le travail de détection très compliqué par nos collègues, parce qu'on a des sociétés qui se montent et qui se ferment quelques mois après, où on intervient un an et demi après, il n'y a plus rien à récupérer, c'est fini, on constate juste les dégâts. Et puis on a une fraude un peu plus internationale, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, qui a eu tendance à se complexifier. Et la fraude fraude s'est complexifiée aussi, parce que, qu'elle soit internationale ou nationale, elle s'assoit sur un système fiscal qui est lui-même de plus en plus complexe. Quand vous avez des régimes fiscaux dérogatoires assortis de telle ou telle condition, eh bien c'est un peu plus facile de frauder si vous avez un régime fiscal très simple avec une assiette très large. Par exemple, pour les services fiscaux, c'est particulièrement difficile et ardu de suivre un régime de défiscalisation immobilière, ne serait-ce que ça, un exemple de fraude nationale, puisque ces régimes fiscaux durent 9 ans, les outils de suivi ne sont pas nécessairement développés, et puis je reviendrai sur la question des effectifs, c'est quelque chose d'absolument crucial, et aujourd'hui, nous on se demande simplement si on a les moyens d'utiliser le droit existant, tellement on est sacrifié en termes d'emploi. Autre forme de fraude qui se développe, là, toujours sur les régimes fiscaux dérogatoires, on a, vous savez, le crédit impôt recherche qui est vanté en France comme outil d'attractivité, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez lunaire, parce que, alors, évidemment, personne n'est contre la recherche, donc personne n'ose dire le crédit impôt de recherche est mal foutu. Enfin, personne, à part quelques libéraux comme nous, mais je veux dire, dans le débat public, on entend assez peu ça. Pourtant, ce régime est mal foutu. Parce que aujourd'hui, pour faire court, l'assiette est permissive, elle incite à gonfler plus ou moins artificiellement les dépenses qui donnent droit à crédit impôt recherche. Pire, en termes de contrôle, nous, les agents des finances publiques, autrement dit en contrôle fiscal, on ne peut pas juger de la pertinence d'une recherche ou pas. Il faut qu'on s'adresse au ministère de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur, qui a lui-même peu de moyens pour vérifier si c'est véritablement une recherche éligible au crédit impôt recherche. Enfin bref, la plupart des dossiers sont validés et on sait qu'on a une fraude là-dedans. Pire encore, le crédit impôt recherche n'oblige pas, lorsqu'on en a bénéficié, n'oblige pas l'entreprise à utiliser le brevet en France. Là, on a un schéma qui mélange optimisation et fraude. On a des sociétés qui font de la recherche en France, qui se goinfrent de crédit impôt recherche, premier effet, qui se coûtent, j'allais dire, sans faire de pub, et puis qui ensuite cèdent le brevet à une filiale dans un paradis fiscal, payent de la redevance sur place. Sur place, le taux d'imposition étant nul ou faible, il n'y a pas d'impôt sur les redevances versées. Par contre, les redevances versées sont déduites du bénéfice imposable en France. Deuxième effet qui se coule, c'est le jackpot pour la société. Et donc là, en plus, c'est légal. C'est-à-dire, nous, on ne cesse de porter la proposition de réduire, rendre un peu plus drastiques les conditions pour bénéficier du crédit impôt recherche. Maintenant, les pouvoirs publics en font un instrument d'attractivité fiscale. Pas pour financer la recherche, hein, d'attractivité fiscale. Au moins, Christine Lagarde, lorsqu'elle a été ministre de l'économie, elle avait cette franchise. Elle lui dit, le crédit impôt recherche, c'est un très bon outil d'attractivité fiscale. Elle a raison, simplement, c'est pas moral. Donc, voilà, vous voyez, on est... Ces deux exemples permettent de situer qu'on a de la fraude fiscale complexe nationale et puis internationale. Et évidemment, dans le contexte de liberté de circulation des capitaux, de déréglementation, il est devenu très facile pour les agents économiques d'ouvrir des sociétés, des comptes bancaires, ici ou là. On a regardé un certain nombre de sites, donc je ne vous en ferai pas la publicité, où vous pouvez ouvrir un compte bancaire, une société de France, vous pouvez l'ouvrir en Suisse, aux Seychelles, etc. Donc, tout ça a favorisé la circulation des capitaux, et puis à partir du moment où les États se font concurrence et ne sont pas incités à développer une coopération entre eux, et bien nécessairement on arrive à une situation où la fraude se développe, et elle se développe malheureusement pas qu'en France, elle se développe dans tous les États. Ce qui fait que, avec la crise, certains États se sont dit que quand même ils pourraient essayer d'aller gratter quelques milliards ici ou là, parce que ça manque à leur budget. À partir du moment où les agences de notation font pression sur la dette publique et les déficits publics, à partir du moment où on se fait concurrence et puis qu'on n'ose pas trop augmenter les impôts, même si les États comme la France ont finalement cédé aux augmentations d'impôts, certains se sont dit on va peut-être essayer d'aller récupérer quelques milliards ici ou là. Et on a pu espérer, par exemple en 2009, parce que c'est là que le G20 de Londres en avril, c'est là qu'on a eu des déclarations tonitruantes, rappelez-vous, Sarkozy, les paradis fiscaux, c'est fini. Voilà, on est en 2014, c'est toujours pas fini. Mais on a pu, non pas, on s'était pas fait non plus des illusions, on se disait que peut-être certaines mesures un peu clés allaient être prises pour au moins endiguer le phénomène, essayer d'engranger quelques milliards supplémentaires. Et ce qui s'est fait à l'époque, c'est qu'on a eu une opération communication autour du G20 d'avril de Londres, où, pour ceux qui s'en souviennent, on a eu des signatures d'accords d'échange de renseignements entre les États. C'est-à-dire qu'il y avait des signatures bilatérales, deux États signaient des accords s'engager à coopérer. Donc il y en a eu beaucoup. La France est, je crois, l'État qui a le plus signé de conventions fiscales internationales et d'accords d'échange de renseignements. Ce qui en soi n'est pas inintéressant, mais ce qui est totalement insuffisant et en grande partie hypocrite, tout simplement parce que lorsqu'un État signe, allez, au hasard, avec la Suisse, un accord d'échange de renseignements. Pour qu'il soit utilisé, il faut que de France, nos services de contrôle, détectent un fraudeur potentiel qui aurait fraudé avec la Suisse. Ça suppose déjà un travail de recoupement de données, de détection, de chance éventuellement, parce qu'on a une liste qui tombe du ciel. Enfin, ça suppose déjà ça. Donc ça, c'est le plus dur, parce que l'accès à l'information pour détecter la fraude, c'est le point clé de la lutte contre la fraude fiscale. Donc ça, déjà, c'est ce qui manque dans les services fiscaux. Lorsqu'on n'a pas les effectifs nécessaires pour détecter, utiliser des textes, eh bien on passe à côté d'un certain nombre de fraudeurs. Lorsque, néanmoins, on arrive à détecter quelques cas, il faut mettre en œuvre la convention fiscale, donc s'adresser à la Suisse, qui répond à la moitié des cas. Donc on en perd en route. Et encore, la Suisse ne donne des informations utiles que dans la moitié des cas. Ce qui veut dire que, si je compte bien la maths, le quart de nos demandes est vraiment exploitable. Le quart de nos demandes sur un petit nombre, parce qu'on n'a pas eu, nous, les moyens en termes d'infos et d'effectifs de détecter les fraudeurs. Ça ne fait pas beaucoup. Voilà. On va dire comme ça. Au regard des effectifs, je finis, puis ensuite je répondrai aux questions. Au regard de la situation globale et au regard de ce qui est estimé comme actifs non déclarés en Suisse, rien que pour les particuliers, c'est 90 milliards d'euros d'actifs non déclarés en Suisse, s'aperçoit que les moyens juridiques, matériels, humains ne suivent pas. Donc c'est pour vous dire la complexité qu'il y a à remonter la chaîne de la fraude. Donc en 2009, on a eu essentiellement ça. Si je suis honnête, on a eu quelques mesures intéressantes en France. On a eu la création d'une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, qui est un service où vous avez à la fois des agents de police judiciaire et des inspecteurs des finances publiques qui coopèrent. C'est un service véritablement intéressant qui commence à faire ses preuves, mais on n'est qu'au début des choses. Et puis il y a eu quelques mesures techniques, comme on dit, anti-abus, lorsqu'on était dans le cas de fraude des entreprises, un système particulièrement complexe. Mais enfin, ce n'est pas du tout le Big Bang espéré, je ne vais pas dire grand soir, ça serait trop connoté. En tout cas, ce n'est pas du tout la révolution fiscale qu'on pouvait attendre, en tout cas qui est absolument nécessaire. Donc, il a fallu prendre son mal en patience, essayer de mettre en œuvre les dispositions qui avaient été votées dans les conditions qu'on sait, puisque tous les ans, nous perdons 2000 emplois. C'était 2500 avec la RGPP sous la droite, 2000 avec la gauche. On a perdu 30 000 emplois depuis 2002. Dont une grande part dans les services qui gèrent l'impôt, qui sont à l'origine de la détection de la fraude. Et puis également dans les services de contrôle, le contrôle sur pièce, c'est-à-dire le contrôle du bureau notamment. Donc cette situation fait qu'aujourd'hui, on est toujours à la ramasse, je vais dire, par rapport à l'évolution de la fraude, parce que dès 2009, il y a eu de nouvelles adaptations des comportements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Suisse subissait quand même les assauts de certains grands pays européens, et depuis quelque temps, l'Américain, parce que vous avez vu qu'ils ont été très offensifs sur la Suisse, il y a eu également du côté de la Suisse une reconfiguration, à savoir que des actifs qui étaient logés en Suisse se sont déplacés par exemple vers d'autres territoires comme les îles Seychelles, étaient gérés à distance par la Suisse, qui pouvait ainsi à la fois conserver son image de bon gestionnaire du patrimoine, tout en ne prenant pas trop de risques et en disant ben non, moi, je ne peux pas vous donner de renseignements parce que j'en ai pas, les actifs ne sont pas là, ils sont ailleurs. Donc on a aussi ce mouvement d'échappatoire qui fait que malheureusement la fraude là aussi est toujours en temps d'avance. Depuis 2009, la vraie nouveauté, c'est ce que les Américains ont voulu faire de manière assez unilatérale, c'est le dispositif FATCA. Le dispositif FATCA qui impose un système d'échange automatique d'informations, faute de quoi il y a des sanctions sur ce qui est placé aux États-Unis. Je fais court, mais c'est un système qui est intéressant, qui n'est pas encore mis en œuvre, donc on n'a pas encore de recul, dont l'Union européenne prétend s'inspirer, après tout pourquoi pas, pour éventuellement instaurer un système, c'est ce qu'il faut, on y reviendra au niveau des propositions, d'échange automatique des informations. Mais j'y reviendrai au stade des propositions, parce que là aussi, c'est pas, comment dire, il n'y est pas encore. Et puis dernièrement, on a eu en France l'affaire Cahuzac, alors je passe sur l'affaire Bettencourt en 2009, etc. On a eu l'affaire Cahuzac qui a été un deuxième temps, au cours des 4 dernières années, on a reparlé de lutte contre la fraude fiscale. Notre ancien ministre délégué au budget, PA son âme. On n'en est pas là. Mais il a fait du mal quand même dans nos services. C'est quand même un symbole incroyable, le ministre du budget pour fendre la fraude fiscale qui a un compte en Suisse, qui se fait prendre comme le fraudeur qui est honni de toute la population. Outre le symbole, ce qui est particulièrement révélateur là-dedans, c'est que finalement, il a démontré ce qu'on dénonçait depuis tout le temps, c'est que la fraude fiscale avait perduré, qu'elle était devenue complexe international. Et pour moi, Cahuzac, Bettencourt, ça fait un partout, la droite, la gauche, comme ça on s'en fait pas. Ce sont des exemples assez révélateurs de l'impuissance des États à lutter contre la fraude fiscale internationale. Suite à ça, le gouvernement a pris dans la précipitation un certain nombre de dispositions, essentiellement d'ordre juridique, pour renforcer quelques moyens juridiques sur la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, par exemple. Et à ce moment-là, on a eu un débat important sur l'architecture de la lutte contre la fraude fiscale. Et je m'arrête un instant là-dessus, parce que c'est quelque chose de sensible, qui n'a pas fait l'unanimité dans des associations comme ATTAC, au sein des ONG qui sont engagées dans la plateforme paradis fiscaux judiciaire à laquelle appartient ATTAC ou notre syndicat. C'est la façon dont est organisé le contrôle fiscal. Est-ce que Bercy, autrement dit, doit avoir le monopole du contrôle fiscal ou pas? Nous, on prétend que oui. Alors, évidemment, c'est facile pour un syndicat de Bercy. Je vais vous expliquer pourquoi. On prétend que oui, même si Bercy doit faire plus de transparence, mais sur les deux. Parce que judiciariser, c'est-à-dire donner tout pouvoir au juge, hein, je fais très court, judiciariser le contrôle fiscal n'améliorerait pas déjà la longueur des procédures. On sait malheureusement que dans la justice, certaines procédures peuvent être très longues. Déjà, on n'est pas nécessairement sur, comment dire, un traitement égal des situations potentielles de fraude qui seraient confiées à des juges. On sait aussi qu'il y a beaucoup de fuites. Et en matière de fiscalité, les fuites sont toujours dangereuses parce que parfois on peut entendre tout et n'importe quoi. On sait aussi que les sanctions pénales ne sont pas toujours adaptées, ne sont pas toujours graduées en fonction de la gravité de la fraude, alors qu'en matière de fiscalité, il y a une graduation des sanctions fiscales qui ne sont pas si mal adaptées que ça. Donc il y a un ensemble de choses, et surtout il y a une question de tout simplement, c'est que nous on est formés, hein, les agents des finances publiques sont formés pour faire de la lutte contre la fraude fiscale, et un juge, même s'il est spécialisé, au bout d'un moment il faut qu'il s'appuie sur des services qui sont spécialisés. Et puis il y a un autre enjeu, c'est que si on judiciarise, finalement on rentre dans un système proche du système américain, qui est le suivant, c'est que le système américain autorise beaucoup de choses en matière de fiscalité, y compris de négocier son impôt, et puis dès qu'une limite est passée, on tape très dur avec des pouvoirs de police judiciaire. La construction sociale et économique de la France ne répond pas à ça, tout simplement. Donc, et je ne suis pas sûr que si on disait un petit fraudeur, pensons aux fraudeurs RMI qu'on a voulu souvent victimiser dans la société, Nicolas Sarkozy s'y est livré, et certains à gauche, prétendument à gauche, le font également. Si on judiciarise la lutte contre la fraude, demain, des petits fraudeurs se retrouveront avec des peines lourdes, potentiellement de prison ou d'amende, alors que dans le système actuel, la différenciation des graduations, de la gravité de la fraude pourrait permettre de les traiter plus humainement. Il faut faire très attention à ça. Pour autant, ce qui est vrai, et là on se rejoint avec les ONG, etc., c'est que Bercy ne fait pas assez la lumière sur son activité. Nous, on demande depuis des années à ce que des rapports très précis soient communiqués sur toutes les mesures nouvelles qui sont votées. Or, tel n'est pas le cas. On le demande parce que comme c'est très peu utilisé faute de moyens, on sait que ça sert notre discours et nos analyses. Enfin, c'est pas que ça le sert, c'est qu'on a raison, hein, de manière très prétentieuse. Par exemple, toutes les mesures qui ont été votées depuis 2008-2009 et jusqu'à l'année dernière, elles sont trop peu utilisées. Certaines ne sont pas inefficaces en plus, hein. Elles sont trop peu utilisées parce que le management n'est pas adapté, parce que les effectifs ne sont pas suffisants, parce qu'on n'a pas réorienté la lutte contre la fraude dans le bon sens, etc. etc. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de transparence par rapport au Parlement, qu'il y ait plus d'échanges avec la justice, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse, pour le coup, porter plainte au pénal lorsqu'on est dans des cas graves de fraude, et ça n'est pas fait. Ça se fait trop sur les mêmes types de fraude, et pas assez sur les grands schémas de fraude. Et si on rendait l'activité de Bercy plus transparente, on éviterait les soupçons lorsque l'affaire Bettencourt, l'affaire Cahuzac, par exemple, sont connues. Donc, de ce point de vue-là, il faut effectivement avancer, et on travaille en ce moment avec plusieurs ONG pour avancer là-dessus. Donc, je ferme cette parenthèse un peu longue, pardonnez-moi, mais pour comprendre les différents débats qui ont lieu aujourd'hui, qui sont quand même loin d'être neutres. Alors, une fois qu'on a dit ça, et dans ce constat un peu accablant, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a, premièrement, je repars à ce que je disais au début, il faut absolument réexpliquer en quoi un impôt est un impôt juste et économiquement et socialement souhaitable. Donc ça veut dire qu'il faut s'inscrire dans le débat fiscal dès qu'il a lieu. Que ce soit la remise à plat qu'on n'y prend pas d'ailleurs. La remise à plat annoncée par Jean-Marc Ayrault. Dès qu'il y a une occasion, il faut que des associations comme ATTAC, des syndicats comme le nôtre, des ONG, etc. s'inscrivent dans le débat en disant voilà pourquoi payer des impôts est utile et nécessaire. pas simplement de manière incantatoire, hein, mais de manière précise, en disant voilà pourquoi chacun des individus a intérêt à payer des impôts. Parce que s'il ne paye pas des impôts, il paiera de toute façon ce qui serait privatisé, et ça lui reviendrait plus cher. Tout simplement parce que les services privés, eh ben, il a déjà une marge, etc. Donc il faut dire ça, il faut montrer à chaque individu, c'est le plus dur, l'intérêt individuel qu'il a à s'inscrire dans un système qui est où les besoins sociaux sont pris collectivement en charge. Ça veut donc dire qu'il faut légitimer l'impôt par ce qu'il finance, la dépense. Il ne s'agit pas de dire que toute la dépense publique est bonne par essence, mais de dire que l'école, la protection sociale, quand on achète une essence, la rembourser, etc. Ben, tout ça, est-ce que les particuliers, notamment les agents économiques, comme on le dit, sont prêts à faire une croix dessus? Probablement pas. Alors après, on peut toujours dire qu'il y a une mauvaise dépense, oui. Enfin, jusqu'à présent, les mauvaises dépenses, c'était les fonctionnaires, notamment ceux de Bercy. Nous, on propose de réorienter le débat, de dire que la mauvaise dépense, elle est peut-être ailleurs que plutôt que là-dessus. Mais bon, en tout cas, il faut légitimer l'impôt par son utilité et par le retour qu'il procure à chacun des individus d'une société. Ça permet de réhabiliter le consentement à l'impôt. Si on réhabilite le consentement à l'impôt, ça ne veut pas dire qu'on va diminuer la fraude, mais en tout cas, on aura fait œuvre utile, parce que c'est absolument indispensable, c'est le pilier d'une vie en démocratie. Deuxième chose, il faut réformer la fiscalité. Je vous le disais, un système fiscal trop complexe, c'est un système fiscal qui est fraudogène. Alors, idéalement, il faut le réformer en France, en Europe. En France, on peut. On n'a pas besoin d'attendre le feu vert de l'Union européenne pour réformer un certain nombre de niches fiscales. J'ai pris l'exemple du crédit impôt recherche, par exemple, il y en a plein. 500 niches fiscales en France, elles sont coûteuses, globalement inefficaces, et elles engendrent de l'injustice fiscale, parce que même avec les plafonnements, les baisses de plafond, etc., elles restent utilisées par les agents économiques, particuliers ou sociétés qui en ont les moyens. Et donc, au bout d'un moment, il faut élargir l'assiette, c'est-à-dire réduire le coût et le nombre des niches fiscales. Mécaniquement, si on fait ça, il ne faut pas faire pas n'importe lesquelles. C'est là qu'après, on a un débat. Pour certains, les niches fiscales à supprimer, c'est l'abattement de 10% pour les retraités, par exemple. Nous, ça serait plutôt les niches fiscales en matière d'épargne. Donc, pour attaque, typiquement, les niches fiscales, elles doivent poursuivre des objectifs sociaux. C'est par exemple la réduction d'impôts pour frais de dépendance ou les intérêts des livrets A qui doivent rester non imposables parce qu'on favorise les épargnes populaires. Écologique, même si là, il faudrait avoir le bilan de ce qui existe pour peut-être le corriger. Et, y compris en matière économique, on peut favoriser l'investissement et l'épargne longue, mais il suffit d'une ou deux niches fiscales. C'est pas la peine d'en avoir une quinzaine, comme ça existe aujourd'hui, en matière de fiscalité de l'épargne. Si on fait ça, on dégage des ressources pour l'action publique, et avec moins de niches fiscales, on donne moins de possibilités de contourner chacune des niches fiscales, donc moins de possibilités de frauder. Donc il y a un débat sur le système fiscal. En France, en Europe bien sûr, parce que à partir du moment où, si on installait, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union européenne, mais dans l'idéal, au niveau des pays de l'OCDE, au niveau international, un système d'échange d'informations, où chacun des États, qui techniquement on a tout à fait la possibilité, hein, chacun des États transmettrait des informations sur non-résidents, par exemple, j'ouvre un compte au Luxembourg, le Luxembourg dit, vas-y, il a ouvert un compte au Luxembourg, il informe le pays de résidence, voilà, il a ouvert un compte au Luxembourg, ne serait-ce que ça. Et puis, ben, les revenus procurés chaque année, c'est transmis aux autorités fiscales françaises. De la sorte, les autorités fiscales françaises peuvent calculer mon impôt, véritablement au sens du Code général des impôts, sur l'ensemble de mes revenus mondiaux. Ça ne se fait pas pour l'instant, il n'y a pas d'échange automatique d'informations. Donc, il faut déjà avoir ce système d'échange automatique d'informations, tout simplement pour que la législation fiscale soit appliquée. Or, tel n'est pas le cas. C'est bien ce qu'il faut retenir. La législation fiscale, aujourd'hui, n'est pas appliquée. Donc, elle est contournée. Il faut faire aussi, l'Union européenne, on a tout à fait la possibilité, mais l'OCDE également, créer, alors, là, le débat, là aussi, soit un registre des trusts, qui sont des sociétés écrans, qui permettent un démembrement de la propriété. Je le fais court, mais si j'ai des biens en France, mais je vais apparemment demander à un gestionnaire de dessaisir la propriété de mes biens, demander à quelqu'un de gérer, de percevoir les fruits de mon patrimoine au bénéfice d'un tiers qui est inconnu de l'administration fiscale française. Donc en apparence, je ne suis plus propriétaire, donc je ne suis plus imposable sur le revenu, sur l'ISF par exemple. Et donc il faudrait un registre des trusts pour savoir qui bénéficie des trusts, pour savoir à qui on rattache le patrimoine, les revenus qui sont perçus. Nous, on va un peu plus loin, on dit qu'il faudrait un registre des sociétés européennes. Pour avoir une immatriculation et pour pouvoir alimenter le système d'échange automatique d'informations. Il faudrait également des procédures européennes. Parce qu'aujourd'hui, on a des procédures de contrôle fiscal qui sont très nationales, des procédures, de contrôle coordonné, mais qui ne sont pas assez développées parce qu'elles sont lourdes à mettre en place. Et donc là aussi, ça mériterait d'être mis en place. Donc on voit bien que sur ces deux champs, sur la législation fiscale, il y a matière. Et puis il y a un ensemble d'autres mesures qu'il faut absolument prendre, je vais vous faire grâce de toutes, parce qu'il y en a qui sont vraiment techniques, qui touchent à la prescription, etc. Mais il y a renforcer les effectifs de contrôle, de détection et de contrôle, c'est absolument nécessaire, aussi bien au niveau de la direction générale des finances publiques, des douanes, que de la justice, que de la police, lorsque on est sur les brigades financières. Il faut favoriser la coopération entre eux. Rendez-vous compte que la fraude fiscale est une des formes de délinquance économique parmi d'autres. On a le blanchiment, la corruption, que sais-je. La TRACFIN, par exemple, qui est la cellule anti-blanchiment, qui doit recevoir notamment les déclarations de soupçons des banques, des notaires, des avocats, etc., dès lors qu'il y a un soupçon de blanchiment, y compris de blanchiment de fraude fiscale, le TRACFIN ne nous communique pas automatiquement les informations en cas de blanchiment de fraude fiscale. Ça fait désordre. Nous-mêmes, on ne sait pas quelle procédure utiliser pour demander à TRACFIN, qui est un service français, des renseignements. Donc rien que sur la coopération entre les autorités nationales, il y a matière à redire, il y a facilité les échanges. Donc il y a un ensemble de mesures plus ou moins techniques qui peuvent être prises. Techniques parce que ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre ce qu'on appelle le droit de communication, par exemple. Au niveau des effectifs, écoutez, c'est simple. Un vérificateur notifie environ 1 300 000 euros par an. Là-dessus, on recouvre 60% au bout de 3-4 ans. Donc il est parfaitement rentable. En 2 ans, il a payé toute sa carrière. Donc renforcer les effectifs du contrôle fiscal, c'est absolument nécessaire. Et puis, je le disais, développer l'accès à l'information, par exemple, rendre obligatoire la déclaration des prix de transfert. Un prix de transfert, c'est quoi? C'est lorsqu'une société établie en France passe des transactions avec une société établie à l'étranger. C'est comme ça, souvent, qu'elle transfère son bénéfice habilement dans les paradis fiscaux ou dans des États à fiscalité privilégiée. Par exemple, au lieu de payer un service 50, je vais le payer 100 et je vais déduire 100 du bénéfice imposable en France. Ou inversement, je vais le vendre à un prix inférieur à ce qu'il est. Donc, il y a une transaction, une manipulation du prix qui se traduit toujours par une érosion des bases imposables. La base imposable en France diminue, la base imposable dans un paradis fiscal, pour faire court, augmente. Et ces prix de transfert, normalement, sont réglementés. Il doit y avoir une méthodologie. Les sociétés doivent obéir à des préceptes établis par l'OCDE. Mais les services fiscaux n'ont accès à ces méthodologies que lorsqu'ils sont en contrôle fiscal. Autrement dit, il faut qu'ils aient le génie ou la chance de dire « il y a peut-être un loup pour y aller, demander une documentation ». Donc on propose que la documentation nous arrive avant, comme ça se fait en Grande-Bretagne, pour travailler utilement et voir où on oriente les contrôles fiscaux. Donc voilà, sur les obligations déclaratives, qui sont des moyens juridiques, il y a l'ensemble de choses. Je ne vais pas faire plus long parce que ça fait déjà pas mal d'informations. Retenez juste que, pour conclure, il faut que la population prenne à bras le corps cette question, parce que ça reste une question éminemment politique. Et l'analyse qu'on peut faire de tout ça, c'est que si pour l'instant on n'a pas mis la pédale... l'accélérateur sur la fraude fiscale, c'est que ça arrangeait quelque part les États, parce qu'il y avait des intérêts en présence, parce que chaque pays a ses propres paradis fiscaux, parce que si on développe trop le contrôle fiscal ici et pas ailleurs, et bien là où le contrôle fiscal est plus allégé, les entreprises risquent d'aller. Donc on a un jeu très politique autour de ces questions-là. Voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que malgré le contexte de, entre guillemets, ras-le-bol fiscal, il y a plus que jamais nécessité de lutter contre la fraude fiscale, et donc c'est un engagement citoyen qu'une association comme ATTAC souhaite porter, pas seule, parce que dans la période actuelle, vu les difficultés et vu ce qu'on a en face, il va falloir être plusieurs pour porter la bonne parole. Merci à vos questions.